0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinas, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui les croisades.
À tous ceux qui partiront, la rémission de leurs péchés sera accordée. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, qu'ils soient désormais les chevaliers du Christ. Urbain II, à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 1095.
D'histoire. Les croisades ont creusé un tel fossé entre l'islam et l'Occident qu'à l'occasion de la guerre du Golfe, beaucoup de musulmans ont accusé les États-Unis de se lancer en Irak dans une nouvelle croisade. C'était 9 siècles après que le pape Urbain II ait demandé à tous les chrétiens d'Occident d'aller délivrer Jérusalem tombée entre les mains des Turcs. À l'appel du pape, toute la fine fleur de la chevalerie européenne était alors partie en Terre Sainte. Ils s'appelaient Adhémar de Monteil, Pierre l'Ermite, Gautier sans avoir, Bohémond de Tarente, Tancrède ou Godefroy de Bouillon. Prêtres, chevaliers ou simples paysans, ils avaient quitté leurs églises, leurs châteaux et leurs champs pour se retrouver à des milliers de kilomètres de chez eux, à Jérusalem, où même les pèlerins, disait-on, ne pouvaient plus se rendre.
Je pense que j'ai trouvé ce paysage effroyable. J'étais bien jeune alors. Aujourd'hui, je pourrais faire ce chemin les yeux fermés. Chaque rocher doit nous connaître.
Oui, mais on ne sait pas ce qu'il dissimule.
C'est la foi des pèlerins qui nous protège. Un vrai bouclier. Seulement, à ce compte-là, l'existence est devenue monotone à pleurer. On se rouille et on s'ennuie ferme. Les Turcs !
Charles Hennequin, bonjour.
Bonjour.
Alors, 900 ans après ces pèlerins, vous avez vous-même suivi la trace des chevaliers qui se rendaient autrefois à Jérusalem et vous en avez rapporté de très belles photos publiées dans un livre sur les traces des croisades, un beau livre publié à la Renaissance du Livre. Alors, ce trajet commence, bien sûr, à Clermont-Ferrand, là où en 1095, le pape Urbain II a prêché la première croisade. Pour quelle raison? Parce que Jérusalem, les lieux saints, étaient déjà, depuis 4 siècles, entre les mains des musulmans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour demander aux chevaliers d'aller récupérer les terres saintes?
Ben, je crois que les historiens n'ont pas fini de s'interroger sur les véritables motivations de l'intervention de Urbain II, qui a été une surprise apparemment. Le secret avait été bien gardé, et on peut dire que c'était une espèce de coup médiatique.
Oui. Il faut rappeler que les Turcs, les musulmans occupaient déjà les lieux saints depuis 4 siècles, mais les Turcs y étaient depuis peu de temps. D'ailleurs, ils menaçaient même l'Occident, puisqu'ils étaient à 20 kilomètres de Byzance.
Oui, de Byzance. Mais est-ce que ça avait vraiment une signification pour les Gaulois à l'époque? Je crois qu'il faut surtout replacer l'événement dans le contexte de l'époque. En Occident, le 11e siècle est une période de transition vraiment très importante. L'Europe commence à sortir de l'obscurantisme du haut Moyen-Âge. L'an 1000 est passé. Et toutes les églises romanes, les abbayes romanes qui persistent à travers tout l'Occident datent de cette époque. Et cette espèce de boom de la construction signifie en fait un décollage économique. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter ce mouvement d'expansion, parce que c'est en fait une conquête aussi.
Ah bah oui, c'est une conquête. D'ailleurs, vous le rappelez, hein, Charles Hennequin, il y a bien sûr, on dit, les lieux saints sont entre les mains des infidèles, mais il y a beaucoup d'autres raisons inavouées. Il y a par exemple le fait, vous le dites, de la tentative de détourner les chevaliers des batailles auxquelles ils se livraient en Europe. Hein. Les croisades, dites-vous, servaient en fait d'exutoire à la brutalité des seigneurs, et Urbain II lui-même le disait, qu'il marche contre les infidèles, ceux qui jusqu'à présent se battaient entre eux. Et puis alors, vous rappelez aussi, Charles Hennequin, une chose qui est intéressante, c'est qu'on leur fait miroiter des richesses. Urbain II leur fait miroiter les richesses qu'ils pourront trouver en Orient. Je le cite, « Prenez la route du Saint-Sépulcre, arrachez ce pays des mains des peuples abominables, vous voyez comment on parlait d'eux, soumettez-les à votre puissance, ces terres dont l'écriture dit qu'il y coule du lait et du miel, son territoire fertile par-dessus tous les autres, offre pour ainsi dire les délices d'un autre paradis. » Autrement dit, on leur dit, allez-y, et vous vous taillerez des fiefs, ce qui va d'ailleurs se produire.
On l'a fait miroiter un Eldorado. Mais il y a une autre phrase dans cette même citation. « Cette terre que vous habitez tient à l'étroit votre nombreuse population. Elle n'abonde pas en richesse et fournit à peine la nourriture à ceux qui la cultivent. » Alors ça, moi, je trouve
cette
que c'est
terre,
extraordinaire.
Il parle de l'Occident, justement.
Ben oui. Et en fait, ça signifie que le pape a conscience d'une surpopulation à l'époque, d'une pression... Et qu'est-ce qu'il propose comme solution? Ben, c'est l'émigration et la conquête.
Enfin, et puis pour, oui. Et pour couronner le tout, ça compte beaucoup. À une époque où on a beaucoup la foi, le pape promet aux croisés la vie éternelle et l'absolution de leurs péchés.
Le pardon des péchés, bien sûr, c'est le
paradis. Est-il vrai que le pape lui-même protège les croisés? Est-il vrai que personne ne peut porter la main sur les croisés sans être excommunié?
C'est tout à fait certain.
Moi, Étienne de Cloix, je jure sur le sang du Christ de prendre la croix et de n'avoir de cesse que j'aurai délivré Jérusalem. La mer s'ouvrira devant nous, comme la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse. À genoux !
Vas-y tout seul. N'entraîne pas les autres. Laisse-les pour entrer les moissons. On en a besoin.
Je ne peux pas. Je ne fais qu'obéir. Dieu le veut. Qui aime Dieu me suit.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les croisades.
Et c'était Chevalier, vous êtes sous bonne sauvegarde, une chanson de l'époque des croisades, dont la première donc commence en 1096, Charlène Guien, dès le mois de février d'ailleurs, avec le départ de ce qu'on appelait la croisade, de ce que vous appelez la croisade des pauvres gens, c'est-à-dire celle qui a été prêchée, et il n'y avait pas de chevalier encore, par Pierre l'Ermite.
Oui, apparemment, ça a été totalement inattendu, parce que il est clair dans le discours d'Urpin II qu'il appelle à une expédition militaire. Or, il se produit ce phénomène spontané, une espèce de mobilisation populaire qui dépasse en fait le clergé, qui est dépassé par l'événement. Il y a des textes, vous voyez, oh là là, surtout que les femmes n'accompagnent pas.
Oui, parce qu'il y avait tout le monde, il y a des femmes, des enfants, et puis il y a quelques chevaliers, il y a ce fameux Gautier sans avoir, dont le nom à lui tout seul indiquait les raisons pour lesquelles il partait.
Exactement, oui, non, c'était vraiment un mouvement spontané et incontrôlable. Alors le problème, c'est que ces gens sont partis apparemment avec enthousiasme, mais sans aucune... infrastructure, sans aucune intendance. Alors le résultat, c'est qu'ils étaient contraints de vivre sur le terrain, sur le pays.
Et ils vont même plus loin, parce que les premières victimes de cette croisade des pauvres gens, ça va être les juifs de toutes les villes par lesquelles ils passent. Pourquoi cet acharnement contre les juifs alors qu'on va se battre contre les sarrasins?
Oui, c'est vrai que les croisades ont été l'occasion des premiers pogroms d'Occident. On n'en parle pas très souvent. Je crois que c'est un penchant naturel d'éclipser un peu ce qui nous embarrasse et ce qui nous gêne. Mais c'est absolument indubitable, c'est bien documenté et connu de tous les historiens. Alors comment peut-on expliquer ça? Ben, je crois que pour des esprits simples, ça pouvait paraître un peu bizarre. Hein. On les envoyait casser de l'infidèle, en somme. Alors pourquoi aller aussi loin, casser de l'infidèle, alors que sur place, si on ose dire, sous la main, il y avait d'autres infidèles qu'en plus, l'Église considérait comme responsable de la mort du Christ.
Alors c'est cette croisade donc qui se manifeste par ces pogroms épouvantables, elle va d'ailleurs elle-même être littéralement éliminée par les Turcs dès qu'elle arrive en Anatolie, dès qu'elle passe en Asie, et au moment où elle est suivie alors par celle qu'avait appelée Urbain II, c'est-à-dire voilà. La croisade des chevaliers, ils viennent de partout, hein, de Normandie, Robert Courteuse qui était le fils de Guillaume le Conquérant, il y a les Normands de Sicile avec Bohémond de Tarente et Tancrède, il y a les gens du Nord aussi, derrière le plus célèbre peut-être chevalier de cette première croisade qui était Godefroy de Bouillon, ils viennent de partout, hein, de toute l'Europe et pas seulement de France.
Oui, et là c'est beaucoup plus structuré, ce sont des hommes de guerre, ce sont des professionnels de la guerre et qui ont conscience quand même des problèmes logistiques que ça pose.
Alors cette croisade va être très longue, hein, évidemment, on se déplace à cheval ou à pied, elle est en plus freinée par des négociations diplomatiques. Quand ils arrivent à Byzance par exemple, je crois que l'empereur de Byzance, qui est Alexis Comnène, les fait poireauter pendant 4 mois, il y a de négociations un peu bizarres.
Oui. C'est vrai, Byzance, c'est important dans l'histoire des croisades. Souvent, dans l'esprit, on résume souvent les croisades à un affrontement entre l'Occident et l'Islam. C'était bien plus complexe que ça. Et notamment parce que, entre les deux protagonistes, il y avait Byzance.
Qui était chrétien quand même, justement.
Chrétien,
ça devrait faciliter les choses.
Mais déjà avec des caractéristiques. Et très vite, les rapports, les relations entre les Byzantins et les croisés vont se dégrader.
Les deux églises, il faut le rappeler, se regardent en chien de faïence. Alors, il y a aussi une chose qui est assez extraordinaire, vous le rappelez, c'est que ces croisés, ils s'entendent pas très bien entre eux, ces chevaliers. Il y en a un, par exemple, qui prend la tangente avant même qu'on arrive à Jérusalem, au moment où on est pratiquement à la hauteur d'Antioche. Il file vers l'est, alors qu'il n'y a pas de... Jérusalem est au sud. Et puis, il va s'emparer tout de suite du premier état latin d'Orient, pour son compte, le comté d'Édesse, qui devient celui donc de ce fameux Bohémond de Tarente.
Oui, le comté d'Édesse, c'était Baudouin de Boulogne, qui était le frère de Godefroy de Bouillon. Ouais. Il déserte la croisade, littéralement, comme vous venez de le dire, et quitte le gros de la troupe pour aller conquérir et créer le premier état latin, le comté d'Édesse. Et paradoxalement, c'est vraiment une des curiosités de la croisade, il deviendra par la suite roi de Jérusalem.
Alors cela dit, avant même justement d'être arrivé à Jérusalem, qui va être prise le 15 juillet 1099, 4 ans après l'appel d'Urbain II, et au terme de la plus violente des 8 croisades, la revue de texte Stéphanie Denquin.
Oui, avant même de partir, la première croisade en 1096 s'affirme dans la haine et le sang avec donc les massacres de juifs. Voici comment à l'époque un chroniqueur juif, Salomon bar Siméon, parle des croisés. Leur voix, dit-il, était semblable au tumulte de l'orage et de la tempête. Ils se demandaient pourquoi il faudrait se charger de lutter contre les Sarrasins à Jérusalem, alors quand leur saint était une nation dont les ancêtres avaient crucifié leur seigneur. Pourquoi alors devrait-il leur laisser la vie sauve ? Partout en France, donc, on assiste à ces massacres. Cette année-là, rapporte Hugues de Flavigny, ceux qui allaient à Jérusalem procédèrent à une extermination de juifs partout en Gaule, avec une ferveur unanime, dit-il, qui était merveilleuse à voir. Il ajoute ça sans état d'âme, bien sûr. Alors, des massacres qui se poursuivent tout le long du trajet, qui va durer 3 ans. À Mayence, par exemple, en Allemagne, rapporte Albert Dex, les croisés allèrent attaquer les juifs à coups de pioches et de lances. On massacra aussi les femmes et les enfants. Dans l'Empire byzantin, les dégâts des croisés effraient la propre fille de l'empereur, qui déclare « C'était l'Occident tout entier qui émigrait en masse. Mon père en redoutait l'arrivée, car il connaissait leur caractère instable et versatile. » Enfin, en Orient, la violence des croisés se déchaîne bien sûr contre les musulmans. Cette fois, à Nicée, à Antioche, ils tuent, ils pillent, et à Maharat, alors que les croisés ont soif et faim, la violence redouble d'horreur. Partout où ils trouvaient un ennemi, homme ou femme, ils le massacraient, rapporte un chroniqueur anonyme. À peine pouvait-on circuler dans les rues de la ville sans marcher sur des cadavres sarrasins. Et comme ils n'avaient rien pour se nourrir, certains découpaient les cadavres en morceaux et les faisaient cuire pour les manger. Et à Jérusalem, la folie meurtrière dure deux jours entiers. Entrés dans la ville, nos pèlerins massacrèrent les Sarrasins, rapporte le même chroniqueur, au point que le temple tout entier ruisselait de leur sang. Et sans complexe, Raymond d'Aguilaire, un chroniqueur provençal, décrit, je cite, ces choses admirables. Les monceaux de têtes, de mains et de pieds dans les rues et sur les places, dans le temple, on chevauchait dans le sang jusqu'aux genoux. Une violence que ce chroniqueur justifie par Dieu. C'est par un juste jugement qu'a été versé en ce lieu le sang de ceux qui, pendant si longtemps, y avaient proféré contre Dieu leur blasphème. Alors, du côté musulman, c'est bien sûr la désolation et la colère. Voilà ce que dit l'arabe Imad ad-Din al-Isfahani. Voilà ce qu'il dit des chrétiens. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont semblables aux bestiaux ou plus égarés encore.
On comprend pourquoi, Charles Inguien, 9 siècles après, en terre d'islam, on se souvient du passage quand même des croisés. Pour les juifs, on l'a évoqué tout à l'heure, mais les massacres commis après, dès qu'ils sont arrivés en Asie, c'est absolument insensé aussi.
Oui, tout ça est dans les textes et dans les chroniques occidentales tout à fait clairement explicite.
Vous dites qu'une des raisons, c'était aussi peut-être de terroriser à l'avance les villes qui n'étaient pas encore prises pour qu'elles se rendent sans combattre.
Oui. Et puis, il faut aussi se replacer à l'époque, hein, on n'avait pas inventé les droits de l'homme au Moyen-Âge, ce genre de massacre était relativement courant. Dans la Bible, vous pouvez trouver des récits de massacres dans l'Ancien Testament, à peu près, de ce genre. Mais malgré tout, c'est clair que les croisés sont comportés vraiment de manière... avec une agressivité absolument insensée, et ça a été ressenti dans tout le Moyen-Orient, pas seulement par dans le monde arabe, mais par le monde hellénique aussi, comme une agression sauvage et vraiment insensée.
Alors, très peu de temps après la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, beaucoup de croisés vont s'en aller, et alors d'où l'existence, la naissance de ces ordres militaires permanents qui étaient les Templiers, les Hospitaliers, le futur ordre de Malte, et puis les Teutoniques pour protéger justement les États latins. On a parlé du premier d'entre eux qui était le comté d'Édesse, mais il y avait aussi le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, le royaume de Jérusalem de Godefroy de Bouillon, hein, qui sera d'ailleurs très éphémère puisqu'il sera pris par Saladin. Un Kurde. Hein. Et alors là, la prise de Jérusalem par Saladin, ça ressemble absolument pas à la façon dont les croisés avaient pris Jérusalem peu de temps avant.
Ah non, ça c'est vrai. Et Saladin s'est fait une réputation tout à fait extraordinaire, à quoi ont contribué largement les chroniqueurs chrétiens d'ailleurs. Hein. J'ai retrouvé, je peux vous citer peut-être la citation de...
Il y en a beaucoup dans votre livre, de toute façon, Charles Inguien.
Oui.
Mais le fait même, au fond, il y a eu 8 croisades. Là, on vient de parler de la première. Au fond, on peut dire que toutes les 7 autres consistent à essayer de récupérer tout ce qui sera repris par les musulmans, qu'ils soient turcs ou qu'ils soient arabes. Il y a la 2e croisade, celle du roi de France, Louis VII. Et puis alors, le plus célèbre des croisés de la 3e croisade, le roi d'Angleterre à la tête donc de cette 3e croisade en 1191.
Dans ce désert pacifique en apparence, 2 croisades avaient été menées par les chrétiens d'Occident contre les musulmans. La Palestine était devenue le royaume de la croix. Puis les vents avaient tourné et les croisés avaient dû abandonner le terrain chèrement conquis. En l'année du Seigneur 1191, les rois de la 3e croisade reprirent la route de Jérusalem sous la conduite de Richard, premier du nom, roi d'Angleterre, qui sous la foi d'un pieux serment avait juré de reprendre la Terre Sainte à Saladin, sultan des tribus d'Arabie, génie de la guerre du désert.
Alors c'était la 3e croisade, le début de la 3e croisade avec Richard Cœur de Lion, mais aussi avec le roi de France, Philippe Auguste. Il y a eu aussi Frédéric Barberousse qui s'est noyé dans un fleuve. Là, ce ne sont plus des pauvres gens, ce sont plus des chevaliers, ce sont carrément des rois qui prennent la tête des croisades, et avec un état d'esprit un peu différent. Par exemple, une espèce de respect mutuel entre Richard Cœur de Lion et Saladin. Je crois qu'il y a eu une trêve entre eux, non?
Oui, une trêve qui masquait un peu leur rivalité, mais qui était toujours bien vivace, hein, leur rivalité. Ben Richard Cœur de Lion, au Moyen-Orient, actuellement, quand un enfant est insupportable, les grands-mères le grondent en lui disant « si tu continues, on va appeler le roi Richard ». Il s'est fait une telle réputation cruauté qu'il est devenu un peu le symbole du Barbe Bleue.
Ah oui, il a massacré les gens de Saint-Jean-d'Acre, c'est vrai.
Voilà, ça c'est un de ses titres de gloire. C'est après un siège long, la garnison de Saint-Jean-d'Acre s'était rendue, il les a fait massacrer de sang-froid.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas seulement contre les musulmans que les croisés vont se déchaîner, mais c'est parfois contre des chrétiens. La quatrième croisade, par exemple, va être marquée par un massacre épouvantable et le sac de la ville de Byzance, de Constantinople.
Ville chrétienne, la plus belle ville.
Comment expliquer que des chrétiens, des chevaliers chrétiens, massacrent sur leur route vers Jérusalem, d'ailleurs où ils n'y arriveront jamais, massacrent et pillent la ville de Constantinople?
La cupidité. Disons que l'hostilité entre les croisés et les byzantins, elle a commencé dès l'arrivée à Constantinople de la première croisade. Et ça n'a fait, les relations n'ont fait que s'envenimer petit à petit. D'une part, pour les Byzantins, les croisés étaient des rustres. Il y avait à peu près 2 siècles de décalage dans le niveau de vie, dans le niveau de développement. C'est vrai que les croisés, l'Occident était largement sous-développé par rapport à le mode de vie et le niveau culturel du Moyen-Orient. Et les croisés, en arrivant à Constantinople, étaient fascinés par la richesse, par le luxe qu'ils voyaient. Et avec pour résultat, c'était pas de l'admiration, mais de la cupidité.
Ils vont ramener, d'ailleurs, vous le rappelez, on les voit en photo, les fameux chevaux qu'on voit actuellement à Venise, et qui étaient autrefois à Constantinople, à l'hippodrome de Byzance. Oui.
Les Vénitiens ont joué un rôle dans la prise de Constantinople. Mmh. Ils avaient accepté de transporter les croisés par bateau, il fallait rembourser le service.
Alors cet échec, il y en aura d'autres, il y a eu 4 autres croisades, dont les 3 dernières d'ailleurs ont eu pour objectif l'Égypte, parce que cette fois-ci c'était le sultan d'Égypte qui s'était emparé de Jérusalem, et c'est donc d'abord par l'Égypte, par sa capitale, qu'il fallait passer sans qu'on y parvienne, puisque Saint-Louis, d'ailleurs on le sait, va mourir là-bas en 1254, tandis que dans ce qui reste des états latins, eh bien les croisés, les musulmans ont finalement appris à se connaître.
Alors tu sais notre langue?
Autant qu'Allah me le permet, j'essaie de tout connaître. Je suis l'émir Ildirim de Kurdistan, messire.
Et moi je m'appelle Kenneth de Huntingdon. Tu sais beaucoup de choses, à ce qu'il me semble.
Nous autres sarrasins avons l'oreille à l'écoute dans le bouquet des arbres. Mais que peut-on espérer de pauvres hommes déments qui traversent la terre et vont se battre pour un sépulcre vide?
Le tombeau de notre sauveur.
Le prince de la paix, je crois. Cependant, lorsque vous tirez l'épée, c'est en son nom. Quand j'étais encore enfant, mon pays a été conquis par les croisés. Et j'avoue que j'ai éprouvé de l'admiration pour ces ennemis d'Occident, ces êtres étincelants qui marchaient au combat et à la mort avec une étrange pureté. J'ai étudié leur vie et leurs mœurs. J'ai appris à parler et à penser dans leur langage. Et en moi-même, j'ai adopté la chevalerie.
Alors, à force de vivre ensemble, Charles Enghien, il y a sûrement eu des fraternisations, comme ce que l'on vient d'entendre entre les chrétiens et les musulmans, les chevaliers chrétiens d'ailleurs qui quitteront définitivement la Terre Sainte en 1291. Ce sera la fin, au fond. Sur le plan militaire, le bilan était totalement nul. Ils n'ont fait qu'effleurer, vous citez, je crois, Georges Duby, ils n'ont fait qu'effleurer l'islam. Mais le bilan, quand même, d'abord, ce qu'il a de positif, il a quand même, dit-on, beaucoup encouragé le commerce et surtout fait découvrir des tas de nouveaux produits. Il y a eu des fruits comme l'abricot, il y a eu la canne à sucre, on découvre, il faut vous rappeler qu'on ne mangeait pas de sucre ou pas beaucoup de sucre en Occident. L'agriculture de canne à sucre vient de cette époque-là. Il y a eu aussi le coton, il y a eu aussi le pigeon voyageur, par exemple. C'était le télégraphe de l'époque.
Oui, oui. Ça paraît futile, mais moi j'ai trouvé ça fort amusant. En fait, les croisés ont perdu des batailles parce que les musulmans avaient la possibilité de communiquer entre eux par pigeons voyageurs. Eux ne connaissaient pas. C'est assez amusant pour les colombophiles du nord de la France.
Ça date de cette époque.
La colombophilie était ramenée de des croisades après à cette époque.
Il y a eu la mousseline qui venait de Mossoul. Alors ça, c'est l'aspect positif. En revanche, l'aspect négatif, le bilan négatif est beaucoup plus lourd. Beaucoup d'historiens contemporains, presque tous, disent qu'au fond, ça a été désastreux. Et qu'aujourd'hui encore, les traces des croisades, les souvenirs des croisades hantent la mémoire des musulmans.
Absolument, c'est certain.
Et... par exemple, Saladin, c'était Saddam Hussein se réclamait, se proclamait le descendant de Saladin,
oui.
qui était kurde, hein, il faut le rappeler.
Qui était kurde, oui. Oui, c'est certain, nous l'avons expérimenté au cours de ces voyages au Moyen-Orient. Le souvenir des croisades est beaucoup plus présent dans ces régions-là que chez nous. Mmh. Chez nous, ça paraît de l'histoire ancienne, hein. On a presque éliminé ça presque. Mais reste ici dans la conscience populaire une version idéaliste et de
des croisés,
les croisades.
On en a un peu parlé, puis vous rappelez qu'au fond, ça servait à justifier la colonisation, quand on en a parlé à partir du 19e siècle à nouveau.
Oui. Il y a une idée intéressante, c'est que finalement, les croisades n'ont pas eu sur le plan économique, par exemple, hein, ça n'a pas entamé les villes importantes comme Damas, Alep, Mossoul, et qu'en fin de compte, ça n'a pris d'importance que beaucoup plus tard, au 19e siècle, au moment de la colonisation, de l'expansion coloniale de l'Europe. À ce moment-là, ça a été vu par les pays arabes comme une espèce de... Les croisades sont devenues une espèce de préfiguration de la colonisation. Ça reste encore dans les mémoires.
Et puis du fanatisme, vous rappelez que le fanatisme musulman, on le trouve par exemple chez ces achachines, hein, comme on les appelait.
Ah oui,
qui étaient des fanatiques qui apparaissent à l'époque des croisades et auxquels des sultans demandaient de se jeter du haut d'une falaise rien que pour montrer de quoi ils étaient capables. Ça fait presque penser au terrorisme d'aujourd'hui.
Oui, c'était pas les sultans, c'était vraiment une internationale terroriste, hein, tout à fait. Il y a des analogies frappantes.
Merci Charlène Guillain. Je rappelle donc le titre de votre livre, qui est un livre de photos, hein, tout l'itinéraire des croisés, avec de très belles photos dans ce livre sur les traces des croisades. Un livre donc dont vous êtes l'auteur et le photographe, et qui a été publié à la Renaissance du Livre. À lire également Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple de Jacques Roland, publié chez Dervy, et La Première Croisade de Jean Fleury, qui est le grand spécialiste des croisades, publié chez Complexe. Jean Fleury qui vient d'ailleurs d'écrire une biographie d'Aliénor d'Aquitaine, qui était la mère de Richard Cœur de Lion, une biographie publiée chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: La Croisade des Enfants de Serge Moati, Thibault ou Les Croisades de Joseph Drimal, et Richard Cœur de Lion, réalisé par David Butler d'après Walter Scott. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Joël Athénant et Alison Acrisi. Documentation à Virginie Bloclenet et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire.